Bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale, on ne peut plus chaleureuse, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui chaque matin, comme chaque matin, vous accueille. Alors je vous espère en très grande forme aujourd'hui. Nous allons immédiatement, sans plus tarder, nous plonger dans la parole, dans la poursuite de notre réflexion, de notre méditation du livre de Daniel. Ce matin, nous aurons comme thème « Le Dieu qui écoute les prières ». Alors, c'est tiré de Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27, là où nous en étions lorsqu'on s'est laissé lors de notre dernière émission. Donc, Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27, que je vous lis immédiatement. Alors, le texte va ainsi donc. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ben nous voilà devant une autre prophétie de Daniel, et celle-ci prend place dans le contexte d'une nouvelle rencontre avec Gabriel. Alors nous retrouvons Daniel en train de répandre son cœur devant Dieu, et au verset 21, il nous est dit que Gabriel s'approcha de lui d'un vol rapide. Bien sûr, ceci indique que Daniel a reçu une réponse plus qu'immédiate à sa prière. Voyons donc dans un premier temps ce que ce texte nous enseigne sur Dieu à l'endroit de la prière du prophète, et par extension, nous voyons comment Dieu réagit à nos prières. Le premier point, et ce n'est pas le moindre, Dieu entend, Dieu écoute nos prières. Daniel est absolument émerveillé de la rapidité avec laquelle le Seigneur répond à son cri. Verset 21-22, « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Et Gabriel de lui-même va dire à Daniel au verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, sois attentif à la parole, comprends la vision. » Ce que ça nous dit, ça, chers amis, c'est que Dieu répond toujours immédiatement à la prière. Je répète, Dieu répond toujours immédiatement à la prière, même lorsque la réponse tarde à nous atteindre, tarde à venir, à prendre place dans nos vies, dans nos existences, Dieu répond immédiatement à la prière. Vous voyez, Daniel n'avait même pas encore terminé sa prière. Passez-moi l'expression que la réponse lui tombe dessus. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas pour toutes les prières, que immédiatement la réponse se manifeste, mais la réponse est là immédiatement et elle se manifeste tôt ou tard. Chose certaine, Dieu entend et répond à nos prières. Le psalmiste de s'écrier, n'est-ce pas, avec allégresse, au psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes les prières ». Voilà. Mon deuxième point, la venue de l'ange pour faciliter la compréhension de Daniel. Ben, ça fait partie, bien sûr, de la réponse à la prière. Qu'est-ce que Daniel devait comprendre dans la vision? Ben, vraisemblablement, il avait besoin d'aide pour saisir les versets 24 à 27 que nous verrons tout à l'heure. Et la salutation de l'ange est un peu énigmatique. Il n'y a personne qui va en disconvenir, hein? C'est un peu énigmatique. Cependant, qu'il nous fournit un bon indice eu égard à cette prophétie-là. Quelle était la raison de son apparition, de l'apparition de Gabriel au moment de l'offrande du soir? Ben, elle se voulait la réponse à la prière de Daniel qui, elle, était centrée sur la fin de la période de 70 ans prophétisée par Jérémie, hein, on l'a vu lors de la dernière émission. Le Seigneur voulait amener Daniel à voir ses 70 ans dans une perspective nouvelle et plus large. Oui, il avait raison, effectivement, que l'esclavage, enfin, que la captivité d'Israël prendrait fin au bout de 70 ans et qu'on était à peu près au terme de ces 70 années-là, mais qu'il y avait une application plus large. Voyez-vous, c'est un petit peu comme lorsqu'on s'approche du sommet d'une montagne. Plus on approche du sommet d'une montagne, plus le reste échappe à nos yeux. Mais lorsqu'on arrive vraiment au sommet, oups, on réalise qu'il y a encore un autre sommet à atteindre. Ben, Daniel en savait déjà pas mal sur ce qui devait arriver, mais il va recevoir de nouveaux détails fort pertinents. Il ne doit pas seulement regarder aux 70 ans décrits par Jérémie, mais aux 70 semaines. On traduit par 70 semaines, là, mais littéralement, c'est 70 fois 7. Alors, le chiffre 7, on le traduit par semaine. Alors, donc, c'est 70 semaines prophétisées par Gabriel. Et nous avons ici un touchant échange qui prend place lors de cette conversation et qui éclaire la raison de la visite évangélique. Donc, nous voyons Gabriel qui se pointe à l'heure de l'offrande du soir. Gabriel, et c'est mon troisième point, qui est porteur d'une bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est la bénédiction de l'amour divin. Nous lisons effectivement au verset 23, « Tu es un bien-aimé qui ne rêve pas de se faire dire par Dieu, tu es un bien-aimé. » Bien, savez-vous quoi? Tous ceux qui appartiennent au Christ Jésus, qui sont venus au Seigneur Jésus par la foi, se font dire effectivement qu'ils sont des bien-aimés. Et ils sont des bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est révélé à eux et à elles, et les a sauvés, les a transportés dans le royaume du Fils de son amour, pour reprendre des propos de Paul dans sa lettre aux Colossiens. Quel gracieux encouragement! Tu es un bien-aimé! Même dans ce court passage, nous savons pourquoi Daniel était un bien-aimé. Hein? Un peu inconsciemment, Daniel nous rapporte que Gabriel est arrivé à quel moment? Au moment de l'offrande du soir. A priori, ça peut sembler anodin ce détail-là, jusqu'à ce qu'on se rappelle que plusieurs décennies s'étaient déjà écoulées depuis que Daniel avait quitté Jérusalem, hein, et qu'il avait été amené en captivité à Babylone. En fait, tout près de 70 ans, 7 décennies s'étaient écoulées. Jérusalem, c'était l'endroit où se faisait l'offrande du soir. Il est évident qu'à Babylone, on ne pratiquait pas les sacrifices rituels. Il n'y avait pas d'offrande du soir. Donc, Daniel se rappelait, lorsqu'il était jeune, 70 ans plus tôt, de l'offrande du soir. Et voyez-vous, sa pensée était demeurée soumise à la vie et à l'adoration de Jérusalem. Hein? Ça aurait été facile pour lui de mettre tout ça en oubli, surtout après toutes ces années, en disant, bon, ben écoute, c'est une période de ma vie maintenant, manifestement, on est passé à autre chose. L'importance de se rappeler. Écoutez, je ne crois pas que la chanteuse Diane Dufresne a une très grande théologie, mais elle a fait une chanson qui nous en dit beaucoup et qui pourrait certainement s'appliquer dans un bon contexte là, lorsqu'elle chante « L'oubli est un affreux voleur ». Gare! gare au danger d'oublier d'où nous avons été tirés. Le Seigneur, dans sa miséricorde d'ailleurs, nous a fourni des outils pour nous rappeler, pour qu'on puisse se rappeler. La communion, par exemple. Quelle est la parole même, quelle est l'essence même de la communion? Lorsque Jésus va dire « Faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous et souvenez-vous de tout ce que cette communion, cette sainte cène, cette invitation à ma table porte comme message. » Donc Daniel était aimé dans les cieux parce qu'il vivait pour Dieu dans la perspective de l'Alliance. Voyez-vous, il vivait dans l'attente de la restauration de la cité de Dieu, afin que le nom de Dieu soit élevé parmi les nations. Il faisait quoi, Daniel? Il soupirait après la grâce d'expérimenter à nouveau les rites sacrificiels anciens, recommencer encore à offrir l'offrande du soir, qui rappelait au peuple ses péchés, bien sûr, son besoin de salut, mais qui lui rappelait également la promesse du pardon divin. Et ça m'amène à mon quatrième point. Et là, nous en arrivons aux 70 semaines. Ça fait couler de l'encre, ces 70 semaines-là, vous savez. Ça nous amène donc à l'interprétation de ces 70 fois, cette fois, ces 70 semaines-là. Nous avons déjà noté que l'illumination donnée à Daniel se veut la plupart du temps de nature progressive, c'est-à-dire qu'il en reçoit une portion, ensuite une autre portion qui est plus éclairante, c'est cumulatif en quelque sorte, et ça va du général au plus spécifique. Ben, c'est exactement ce qui se produit là pour les versets 24 à 27. Donc, il nous est parlé d'une période de 70 semaines, de 70 fois ces fois, période au terme de laquelle il y a 6 éléments précis qui vont prendre place. Premièrement, nous disent les versets, la transgression cessera. Deuxièmement, il nous est rapporté que le péché sera amené à sa fin. Troisièmement, il est aussi fait mention de l'expiation de l'iniquité. Quatrièmement, on nous parle de l'instauration de la justice éternelle. Cinquièmement, nous rapporte le texte, la vision et la prophétie seront scellées. Et sixièmement, pour clore, le Saint des Saints sera oint. Bon, il va sans dire que tout chrétien du Nouveau Testament ne peut s'empêcher de voir dans ces déclarations-là une prophétie de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nos péchés, afin que par lui, nous puissions mourir au péché et ressusciter dans une vie de justice. Et c'est en raison de ces accomplissements-là que la grâce règne. En Romains, chapitre 5, verset 21, le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Christ, en fait, fait même plus que cela. Il est venu sceller la vision et la prophétie, comme il est dit au verset 24. Il est la dernière parole de Dieu. Il est la révélation finale, comme on le voit au début, là, au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, parce qu'en lui s'accomplissent littéralement toutes les promesses de Dieu. Maintenant, comment s'accomplissent les paroles et pour oindre le Saint des Saints, toujours au verset 24. Ben, le Saint des Saints fait bien sûr référence au tabernacle, au désert, les trois divisions là qu'on avait dans le tabernacle. Il y avait d'abord le parvis, il y avait le lieu saint, et là il y avait le lieu très saint où on avait l'arche de l'Alliance, et seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an avec du sang qu'il aspergeait sur le propitiatoire pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, le Saint des Saints, ça va de soi, est une référence au tabernacle. C'était le lieu où Dieu était et où le peuple allait rencontrer son Dieu. Et ce tabernacle-là, bien sûr, comprend tous les éléments qui étaient consacrés par un rituel précis. Jésus est venu accomplir tout ce que le lieu très saint représentait. C'était quoi le tabernacle, somme toute? C'était quoi le tabernacle du désert? Ben, c'était rien de moins qu'une tente. Hein? C'était une grosse tente qu'Israël transportait dans dans sa démarche là vers la terre promise. Donc, comment est-ce que Jésus accomplit cela? Bon, ben c'est simple. Jean chapitre 1, verset 14. Il nous y rapporté « Et la parole a été faite chair » et retenez bien la phrase suivante « Et elle a habité » parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, elle a habité. Elle a habité, c'est le verbe skenoo en grec, qui, en fait, ça vient du nominatif sketos, qui veut dire tente. Littéralement, la parole a été faite chair, et elle a monté sa tente parmi nous, ou littéralement, si vous me permettez de translittérer, elle a tabernaclé parmi nous. Elle a monté sa tente parmi nous. Et Gabriel va maintenant donner à Daniel la signification des 70 semaines hein, qu'on attend là avec fébrilité. Alors, depuis le décret de la reconstruction de Jérusalem, vraisemblablement là, il est ici fait référence au décret de Cyrus, ultimement c'est le décret de Dieu accompli par Cyrus, jusqu'à la venue du Messie, Gabriel de dire il y a 69 semaines. Cependant, comme le texte en fait mention, ces 69 semaines-là, ou ces 69 fois 7-là, doivent être comprises comme deux périodes. L'une de 7 semaines et la seconde de 62 semaines. Verset 25 nous dit en effet, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines » et 62 semaines, pour un total, bien sûr, de 69 semaines. Pendant la première période, pendant la plus courte, pendant la période de 7 semaines, verset 25, il nous est dit, « Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Alors, nous qui vivons après l'accomplissement de la prophétie, c'est relativement simple de la comprendre. Hein? C'est un clair encouragement pour Daniel, lui qui ne pouvait pas avoir la même vision que nous avons. La même perspective que nous avons. Il soupire après la restauration de Jérusalem et il lui est dit qu'effectivement, Jérusalem sera rebâtie en dépit de difficultés et d'oppositions considérables. Et si on veut en savoir plus, ben, on n'a qu'à aller voir l'accomplissement, la réalisation de cette prophétie-là dans le livre de Néhémie. La période de 62 semaines, elle, sera suivi par une dernière semaine, alors que le verset 26 va comme suit. Le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est pas la traduction la plus heureuse qui soit de l'hébreu. On devrait littéralement traduire « Le Messie sera retranché, mais non pas pour lui-même », littéralement dans l'hébreu. Gabriel fait appel à une terminologie de mort violente pénale. Et ce n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, entre autres le verset 8, hein, prophétie qui nous parle du serviteur souffrant, il nous est rapporté, « Était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Comprenons-nous maintenant la traduction, « Le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même, il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. » Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour les péchés de son peuple. Donc cet événement mystérieux, pour Daniel, devient clair à la lumière de l'Évangile. Le Messie sera tout simplement crucifié. Et pendant cette période-là, de 7 semaines, Jérusalem et le Temple reconstruits seront détruits. Il s'ensuivra des dévastations, comme on le lit dans la deuxième partie du verset 26, « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Et le verset 27, lui, semble faire référence à la même dernière semaine. « Qui est celui qui fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Bon, Si nous sommes le moindrement sensibles à la structure de cette petite section-là, des versets 24 à 27, le sens en devient très clair. Il nous faut toujours garder à l'esprit le style de Daniel, qui nous présente une révélation progressive du futur. Donc, chaque verset de cette petite péricope-là, versets 24 à 27, est placé dans un même cadre chronologique de 70 semaines. Voyez-vous, le verset 24 couvre la période tout entière des 70 semaines. Le verset 25 divise les 69 premières semaines. Le verset 26 décrit la dernière semaine en termes généraux, alors que le verset 27 décrit cette même dernière semaine, mais cette fois-ci plus en détail. Alors, on va tenter de faire le point et de résumer tout cela. La première moitié du verset 27 fait référence au Christ. La deuxième moitié du verset 27 fait référence à la destruction de la ville et aux abominations impliquées dans sa chute aux mains de Titus. Et si vous voulez avoir son nom complet, c'est Titus Flavius Vespasianus, qui, le général Titus, en 70 est venu détruire la ville de Jérusalem et le temple. Au milieu de cette dernière semaine, le Christ meurt pour son peuple. Il fait cesser les sacrifices et l'offrande. Plus besoin de sacrifices et d'offrandes, puisque le Christ s'est offert une fois pour toutes. Dans les quelques 3 décennies et demie qui ont suivi le rejet du Messie, on vient de le mentionner, le lieu où le temple avait été érigé est à nouveau souillé par les païens, et Jérusalem sera dans la désolation avec l'attaque romaine de Titus. Daniel était donc en droit de voir le peuple délivré de la captivité. De son point de vue à lui, là, à l'époque où il vit, il était aussi en droit de s'attendre à la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Cependant, le Seigneur voulait qu'il voie un peu plus loin que ces événements-là. Le décret de Cyrus, le retour de Jérusalem, des Juifs à Jérusalem, la reconstruction du temple, ce n'était que la préfiguration des choses à venir. Parce que le but ultime de Dieu n'était pas un temple fait de main d'homme. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Dieu incarné, devait devenir le lieu de rencontre avec Dieu, le temple par excellence, le vrai temple. Et son sacrifice seul pouvait apporter le pardon des péchés. Daniel 9 nous montre que le Christ représente la seule espérance, chers amis, dans nos ténèbres. Les sacrifices et les offrandes étaient les moyens approuvés par Dieu par lesquels les pécheurs pouvaient s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament. Cependant, avec la venue du Christ, ces sacrifices ont cessé, Christ les a accomplis. Christ est Christ seul, et celui qui nous donne accès à Dieu par la croix, par laquelle nous recevons le pardon de nos péchés. Le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang du Christ, qui seul peut purifier la conscience des œuvres mortes. Finalement, Daniel 9 nous rappelle que nous aussi, frères et sœurs et chers amis, nous devons regarder au-delà du monde présent. Pour l'accomplissement ultime des promesses de Dieu, alors que nous attendons, qu'est-ce que nous attendons, nous, puisque le Christ est déjà venu? Nous attendons sa deuxième venue. Nous attendons le son de la trompette de Dieu qui annoncera le retour triomphal du Seigneur Jésus-Christ. Et ce retour triomphal est synonyme de notre réunion avec lui dans la gloire. Alors que les jours se succèdent, nous gardons constamment présent à notre esprit ce temps prochain où nous boirons la coupe de la nouvelle alliance avec le Christ dans le ciel. Et ce jour-là représentera la fin de toute transgression. La nouvelle Jérusalem descendra des cieux et le règne de paix et de repos final et incontesté de Dieu sera instauré à jamais. L'émission de ce matin se termine sur cette note d'allégresse. C'est bien une note d'allégresse, hein? Je suis bien conscient que c'était un peu plus technique là ce matin et que pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le discours biblique, c'était peut-être un petit peu plus ardu à saisir. Le point cependant demeure le même. Nous voyons que depuis les temps anciens, les prophètes avaient déjà clairement affirmé la venue et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Son œuvre était effectivement de régler le problème du péché, c'est ça la bonne nouvelle. Quel est le problème du péché? Ben, Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et dans les termes du Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Non, je dis bien « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6, 23, lui, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette vie éternelle-là, elle se reçoit uniquement dans la foi. La foi veut dire reconnaître que nous sommes des pécheurs, reconnaître notre besoin et s'engager pour le Christ Jésus. Commencer à vivre pour le Christ et à le suivre. Voilà, en termes néo-testamentaires très succincts, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, incluant là celle de Daniel que nous avons vue ce matin. C'est donc une exhortation à venir au Seigneur Jésus-Christ pour son salut, à la plus grande gloire de Dieu. Voilà, l'émission est finie ainsi, mais il vous revient en rediffusion cet après-midi. Adresse postale si vous désirez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Numéro de téléphone à Québec 418-688-0506. Ailleurs en province 1-877-659-0251. Vous trouverez notre adresse courriel sur notre site internet de la station foifm.com. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, chers amis.